Bonsoir, sacré programme, hein. C'est négo qui ont démarré donc aujourd'hui autour de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut ripolliner le système en l'élargissant eh bien, à la vaste et hétéroclite population des indépendants, aux démissionnaires? Oh, ça sera probablement moins ambitieux que le souhaitait le candidat Macron, vous savez aussi, qui voulait eh bien élargir le contrôle des chômeurs. Oui, oui, parce que évidemment, qui doit payer? Qui doit gérer? Ça peut coûter cher, tout ça n'est pas évident. En tout cas, tout ça pose une question autour de l'assurance chômage. Peut-on indemniser tout le monde? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Après, les discussions pendant un bon mois donc qui seront intégrées ensuite dans le projet de loi. Ce projet de loi avec, vous savez, grand projet de loi autour de l'assurance chômage, bien sûr, la formation professionnelle, l'apprentissage également. On va en parler donc avec des experts, des spécialistes comme tous les soirs dans les décodeurs de l'écho. Il y a François Omeril qui est avec nous, président de la CFE. CGC, avec nous également Philippe Vivien, spécialiste des relations sociales qui conseille les entreprises, c'est le directeur général d'Alixio. Jean-Charles Simon, économiste, président de Station, candidat à la présidence du MEDEF. Bruno Coquet, associé auprès de l'Institut de l'entreprise, qui a publié il y a quelques mois Un avenir pour l'emploi, sortir de l'économie administrée. Et puis avec nous, bien celui qui représente les indépendants, justement, on va beaucoup en parler, hein. Jean-Guilhem Daré, le délégué général du syndicat des indépendants et des TPE. Alors, première journée de négociation avec des partenaires sociaux qui disent faire preuve de vigilance. Tiens, tenez quelques-unes des réactions avec eh bien un commentaire très bref, hein, du délégué de Force ouvrière, de celle de la CFDT, de la CGT et du MEDEF. On les écoute, on les regarde, on revient tout de suite.
Les indépendants, les démissionnaires, le contrôle des demandeurs d'emploi ne doit pas se faire au détriment de leurs droits.
La peur de la CFDT dans cette discussion, c'est que l'assurance chômage change de nature et devienne une sorte de minima social auquel auraient le droit de tous les travailleurs privés d'emploi.
On est totalement contre le contrôle des chômeurs et la façon dont les choses ont été présentées. Les chômeurs ne sont pas des fraudeurs.
Le marché du travail se transforme et il est tout à fait normal de réfléchir à ces nouvelles formes de travail et à ces nouvelles situation pour voir si les dispositifs en vigueur couvrent bien la variété des situations.
Voilà, donc vous avez entendu successivement FO, CFDT, CGT et MEDEF. Alors tiens, Bruno Coquet quand même, tiens, l'Institut de l'entreprise, l'état d'esprit quand même de ces négociations, est-ce que c'est une assurance chômage moderne, actuelle, rénovée, dont on parle, qu'on veut, qu'on souhaite, celle qui va concerner les démissionnaires, les indépendants, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales? Parce qu'après tout, au cours d'une vie, on peut changer plusieurs fois d'activité, de métier, non?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui fait l'actualité de cette négociation, c'est qu'il y a deux sujets qui se percutent. Il y a les problèmes préexistants de l'assurance chômage, qui ont donné le déficit, la dette, etc.
Déficit d'environ 4 milliards, une énorme dette estimée à 40 milliards en 2020, voilà, si on ne fait rien, voilà les chiffres.
Petite parenthèse, il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas de déficit à l'assurance chômage quand on regarde l'activité d'assurance, c'est-à-dire les prestations et les cotisations sont équilibrées, il n'y a jamais eu un déficit depuis 25 ans. Alors après, on facture d'autres choses à l'UNEDIC qui font qu'il y a un déficit. Mais bon, c'est une discussion spécifique. Donc ça, c'est le premier problème. Donc compliqué, les partenaires sociaux avaient du mal à négocier jusqu'à présent.
Le passé, voilà, on gère le passé.
Mais... Et puis, il y a les promesses du président de la République qui disent, voilà, il faut fluidifier le marché du travail, il y a des problèmes avec les contrats courts, les démissionnaires doivent pouvoir se reconvertir, et les travailleurs indépendants doivent pouvoir être indemnisés par l'assurance chômage s'ils rencontrent un problème. Donc tout ça peut se faire. Alors c'est plus ou moins compliqué. Les démissionnaires, c'est très facile, c'est déjà en partie fait. Ça coûte rien à l'UNEDIC, ça lui rapporte dès lors qu'ils créent leur entreprise et que leur entreprise marche. Donc il n'y a pas tellement de problèmes avec les démissionnaires. Il y a plus de problèmes avec les indépendants.
On va le voir dans un instant.
Lorsqu'on prend les indépendants pris dans leur globalité, c'est-à-dire les riches et les pauvres, leur taux de chômage est à peu près le même que celui des salariés, donc c'est équilibré. Le problème, c'est que techniquement là derrière, il y a des choses qui sont compliquées et qu'il faut. C'est faisable, mais c'est complexe.
Ah oui, c'est vrai. Quel est le point commun finalement entre une profession libérale, un médecin, un chauffeur de Uber par exemple, ou un livreur de Deliveroo? Voilà, on va en parler dans un instant. Tiens, quel est à vos yeux le sujet le plus clivant, le plus problématique à traiter durant ces négociations de l'assurance chômage? François Omeril de la CGC.
Moi, je trouve que cette négociation, finalement, commence sous de bons auspices parce que les partenaires sociaux ont réussi. Et je crois qu'il faut le souligner parce que c'est suffisamment rare. Ils ont réussi à publier un document de 8 pages. Les 8 organisations, les 3 patronales et les 5 organisations de salariés ont publié un document de 8 pages pour parler justement de l'assurance chômage, du bilan et de leurs objectifs. Donc c'est un sujet qui n'est pas tellement clivant entre organisations. Effectivement, l'agenda du président et donc du gouvernement qui a demandé aux organisations syndicales et patronales de se réunir et de négocier ensemble pour intégrer dans leur pour proposer en tout cas des solutions pour intégrer dans le principe les indépendants et de faire des propositions en tout cas sur les indépendants et les démissionnaires, créer un champ nouveau de contraintes et de réflexion, mais je dois vous dire qu'il ne nous apparaît pas comme étant un champ particulièrement clivant.
Philippe, Vivien, Alexio.
Je crois que l'un des éléments clés, je dirais, de la négociation, c'est comment on fait en sorte que l'accompagnement vers le retour à l'emploi soit le meilleur, le plus efficace, le plus cohérent possible. Et je crois qu'il va falloir...
Et dans ce sens, c'est utile, l'assurance chômage, c'est incitatif pour retrouver du travail, le système actuel ou pas ?
Qu'il y ait un système de filet, c'est évident qu'il est nécessaire que chacun puisse, sous des formes ou sous d'autres, bénéficier d'un filet de sécurité pour l'aider à retourner vers l'emploi. Je crois que c'est important. Après, il y a des situations extrêmement différentes entre le jeune ingénieur qui va démissionner, entre l'indépendant, entre l'infirmière, entre celui qui travaille pour une plateforme collaborative. Il est évident qu'on n'est pas du tout dans les mêmes situations de conditions d'emploi statutaires, de protection sociale, de préparation de sa retraite un jour,
et il faut de revenus également, bien sûr,
absolument qu'on arrive à trouver des solutions qui permettent à l'ensemble de ces catégories, et vous l'avez dit, qui vont passer souvent de l'une vers l'autre. Mais c'est ça la grande nouveauté,
c'est ça la nouveauté,
c'est qu'on va passer
et qu'il faut intégrer, voilà,
du salarié vers l'indépendant.
En 2018, on change de métier,
c'est fini. Et il va falloir vraiment que cette négociation, moi je voudrais qu'on l'appelle un jour sur le retour à l'emploi, c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu de vitesse.
C'est quoi l'enjeu principal, Jean-Charles Simon, et puis vous nous le direz également, Jean-Guilhem Daré, pour les indépendants.
L'enjeu principal, je crains que malheureusement il ne soit pas abordé dans la négociation. L'enjeu principal, ce serait de trouver un système qui fasse que le chômage soit moins élevé en France. A priori, un système d'assurance, il doit concourir ou y contribue d'une manière directe ou indirecte à la réalité du chômage dans un pays.
Cette grosse loi qu'on va voir émerger avec assurance chômage, apprentissage...
Juste avant la réforme, juste avant la loi Hart 4 et la réforme de l'assurance chômage en Allemagne, il y avait un chômage plus élevé en Allemagne qu'en France. Il y a 13 ans.
Oui, on se souvient.
En 13 ans, il n'y a pas eu un différentiel de croissance qui justifie qu'il y ait à ce point un tel écart entre le taux de chômage français
et
le taux de chômage
allemand. Divisé par deux quasiment entre les deux.
L'autre point, c'est effectivement la situation financière. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvie Bruno-Coquet, c'est pas l'activité d'assurance en elle-même, mais il se trouve que, on considère que le régime, il doit financer en bonne partie Pôle emploi, et par ailleurs, il y a des régimes dérogatoires qui pèsent sur ces résultats. Donc au total, on a une année entière de cotisation en dette. C'est quand même absolument monstrueux, et un déficit qui reste très important. Donc, de fait, ceux qui le gèrent, avec l'État, probablement, comme responsable de ça, n'ont pas réussi à dénouer cette situation et arriver à mieux. Donc ça, c'est un
autre
problème.
Il arrive à son terme, le système actuel de la
Moi, je pense qu'il est arrivé à son terme, et que notamment à cause des mutations qu'évoquait par exemple Philippe Vivien, il faut repenser à autre chose. Et que autre chose, ça peut être quelque chose qui soit totalement différent. Et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tabou, et je regrette que souvent, du côté des acteurs concernés, il y a, par volonté de préserver les structures et de préserver les prérogatives, la volonté de maintenir un système même quand il est constaté en échec.
Je vous avais interrompu, pardonnez-moi tout à l'heure, Jean-Charles Simon. Non, pardon. Cette grosse loi qui va émerger, assurance chômage, apprentissage, formation professionnelle, elle est de nature à ramener de l'emploi en France, à vos yeux, ou pas ?
En tout cas, ça fait partie des sujets majeurs. Je pense pas que la question de l'emploi, elle va se résumer uniquement à ça, bien entendu. Mais ça fait partie des sujets majeurs, et dont les trois chantiers ouverts, il y a clairement des dysfonctionnements et il y a clairement à apprendre de ce qui peut se faire ailleurs et de situations qui pourraient être meilleures. C'est ça qui pour moi est le cœur du sujet, c'est est-ce que la situation française, elle est bonne ou elle est mauvaise ? Objectivement, elle est pas bonne. Il y a des problèmes d'adéquation entre les besoins d'emploi et la réalité des formations suivies, donc l'offre de travail, la demande de travail, il y a un taux de chômage très élevé, il y a un taux de chômage de longue durée très élevé, il y a des caractéristiques qui font que par rapport à des pays voisins, j'en prenais un mais il y en a d'autres, on a une situation qui pose problème. Après, derrière, il y a des grands choix de société aussi, j'en suis tout à fait conscient, et il n'est pas évident que les Français souhaitent faire les mêmes choix de société que des pays voisins. Mais ce qui me semblerait dommage, c'est de ne pas poser toutes les questions, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou sur les grands choix qu'on pourrait faire.
Et là, Jean-Guilhem Daré, vous qui représentez le syndicat des indépendants, 3 millions de personnes en France, très vaste, hein, des patrons, des artisans, des avocats, les chauffeurs d'Uber, des livreaux, etc. Est-ce qu'on se pose des bonnes questions au travers de ces négociations ?
En préambule, il faut peut-être déjà rappeler que, effectivement, le président de la République, dans le cadre de la campagne électorale, avait promis une couverture chômage pour les indépendants. Couverture chômage que les indépendants n'ont jamais demandé. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont quand même conscients qu'une couverture chômage suppose des cotisations.
Bien sûr, en plus, bien sûr.
Or, les cotisations qui sont versées, cotisations sociales, qui sont d'ores et déjà versées par les indépendants, sont assez élevées. Bon, ensuite, le gouvernement a dit, bah, écoutez, non, ne vous inquiétez pas, ça ne coûtera rien. Très bien, dont acte. Dans ces conditions, pourquoi pas. Et puis, effectivement, les choses étant ce qu'elles sont, l'IGAS, l'IGF passant par là, on a commencé à se poser des questions. Qui est-ce qu'on va couvrir? Pour quel montant? Dans quelles conditions? Et à ce stade, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites les indépendants, ça va du chauffeur Uber, Deliveroo, jusqu'à l'avocat, etc. Alors, c'est vrai qu'en termes de statut, c'est vrai.
Oui.
OK.
Il y a des grands, comme le disait tout à l'heure Philippe Vivien, il y a des grands écarts de revenus et tout le monde n'est pas exposé de la même façon.
Ah, mais les écarts de revenus,
le conducteur Uber qui vient de Seine-Saint-Denis, il n'est pas exposé de la même façon que le médecin qui a un cabinet en vue à Quimper ou ailleurs.
Vous avez effectivement cette problématique. C'est-à-dire que certains indépendants, type les professionnels libérales, sont quasi insusceptibles de connaître une cessation d'activité non souhaitée. Vous avez effectivement ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, économiquement dépendants, donc les chauffeurs, des bureaux, etc., qui eux sont sous la coupe finalement d'une plateforme numérique et n'ont pas vraiment d'indépendance au sens économique du terme.
Ils sont quasi salariés. Avez... D'ailleurs, le CAB, justement, la cour de une juridiction a considéré qu'un chauffeur du CAB était un salarié en attendant une décision de la Cour de cassation.
Allez-y. Oui. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'entrepreneur individuel classique, qui va effectivement mettre ses capitaux, son investissement personnel en vue de développer son entreprise. Donc ça, ce sont des éléments différents. Aujourd'hui, là où on en est, le risque, c'est qu'on se contente de protéger les travailleurs indépendants économiquement dépendants, avec une augmentation indirecte des cotisations des indépendants au travers de la taxation des contrats courts, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Sauf, ce qu'il faut dire, Bruno Coquet, c'est que l'assurance chômage, jusqu'à présent, elle a été financée par des cotisations patronales et salariales. Depuis ce 1er janvier, depuis donc une dizaine de jours, les cotisations salariales sont exonérées avec une hausse de la CSG qui compense. Les indépendants, ils sont soumis à la CSG et l'exécutif, je cite les proches de Pénicaud, considère qu'ils financent maintenant l'assurance chômage, qu'ils ont automatiquement droit à certains retours sur investissement. Alors, hausse de cotisation ou pas du tout, justement, maintenant tout est intégré.
Déjà baisse pour les employeurs. Pourquoi ? Parce que l'assurance chômage universelle, déjà dans le périmètre que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire celui des salariés, les salariés du secteur public et du secteur privé payent de la CSG, les employeurs du secteur privé payent des cotisations, les employeurs du secteur public sont en auto-assurance. C'est-à-dire que quand ils savent qu'ils vont avoir des chômeurs, ils peuvent adhérer à l'UNEDIC et lui transférer un déficit, et quand c'est pas le cas, eh bien en fait ils adhèrent pas, ils lui transfèrent pas l'excédent qu'ils devraient lui transférer. Aujourd'hui, si on faisait cette assurance chômage universelle avec les employeurs publics, ce qu'on a dans tous les autres pays de la Terre, le taux de cotisation employeur, il serait pas de 4%, mais de 2,5%. 2,5, c'est déjà plus présentable à nos amis indépendants. Parce que par ailleurs, la théorie économique a jamais dit que l'assurance chômage était réservée aux salariés. Au 19e siècle, les caisses d'assurance chômage, elles s'adressent à des compagnons, à des gens qui ne sont pas en CDI à temps plein toute l'année. Donc, il y a des modalités techniques pour apprécier le revenu, la base de cotisation, incorporer des gens qui ne se sentent pas concernés, parce qu'on a des gens qui sont très concernés. Donc, il y a des difficultés techniques, mais on peut très bien le faire. Et une des conditions pour le faire est d'avoir déjà rendu l'assurance chômage universelle sur le périmètre actuel, ce qui n'est pas le cas.
Quels indépendants on cherche à indemniser à vos yeux? Qui seront ces indépendants? C'est facile ou pas d'ouvrir le régime? Philippe Vivien, Alexio.
Je suis pas sûr que ce soit très simple de le faire. Enfin, vous l'avez dit, la situation des indépendants est à ce point différente selon les métiers qu'on va se retrouver, je pense, dans une situation extrêmement difficile. Alors c'est vrai que ce caractère, cette universalité croissante, elle fait sens. On l'a dit. dit tout à l'heure, pour être capable de passer d'un métier à un autre, pour être capable. Je crois que au-delà des indépendants, je crois que l'enjeu c'est la volonté de projet. C'est le projet personnel qu'on a quand on est indépendant. Après, avec les choix qu'on peut faire face à ce projet, le projet qu'on peut avoir si on est salarié, d'aller vers un autre statut, un autre métier, une formation. Je crois qu'il va falloir qu'on se repositionne plus forcément sur le statut juridique de l'un ou de l'autre, mais sur le projet,
projet personnel.
Et comment on accompagne ces projets pour que ces projets constituent des projets individuels, des projets qui aussi seront bons pour la collectivité. Quand, je dirais, derrière le projet, il y a un emploi, quel que soit son statut, bah, on va régler une partie du problème. On a un taux aujourd'hui de chômage historique qui est très fort. On a malheureusement un taux de chômage frictionnel qui monte, je dirais, année après année. On se dit maintenant, mais si on arrive à 6%, ce sera magnifique. Non, il faut qu'on arrive véritablement à trouver tous les moyens qui permettront, quels que soient les statuts des personnes, de les accompagner dans leur emploi, dans leur métier. Je crois que c'est vraiment là où il faut qu'on soit capable de transférer, les ressources.
Alors, François Amril, vous reprenez la parole. Bruno Coquet, Jean-Guilhem Daré, Jean-Charles Simon. Justement, est-ce que c'est évident ou pas?
Non, mais pour répondre à votre question, nous, à la CFE-CGC, on pense très clairement qu'il faut proposer aux gens qu'on dit éco-dépendants. C'est-à-dire, ils sont indépendants dans la pratique de leur métier, mais ils sont quand même dépendants économiques d'un marché, d'une structure, de clients, etc. Il y a des gens qui font le choix, d'autres le subissent. Parlons simplement des gens qui font le choix d'exercer leur activité, leurs compétences, leur savoir-faire, leur temps, de passer leur temps, avoir une activité indépendante. Nous, on pense à la CFSG qu'il faut être en capacité de proposer à ces gens-là un dispositif assurantiel qui permet de garantir que, au-delà des périodes pendant lesquelles et ils ont l'activité maximum, eh bien, ils pourront garantir qu'ils auront des ressources quand l'activité va baisser. Nous, on est très, très attachés, vous le savez, à la CFE-CGC, au caractère assurantiel et contributif du régime actuel d'assurance chômage. On s'est beaucoup battu pour le préserver. Et on est d'ailleurs assez satisfait que dans la négociation qui s'ouvre, on ait maintenu ce principe. Mais on trouve légitime que pour les personnes qui ne sont pas salariées, mais qui contribuent à la richesse nationale, qui s'investissent, de leur créativité, souvent de leur jeunesse, eh bien, qu'ils puissent avoir accès à un dispositif assurantiel.
Alors, Bruno Coquet, Jean-Guilhem Daré, allez-y, Bruno Coquet.
Le problème, c'est qu'en prenant par exemple les travailleurs des plateformes, si vous incorporez dans l'assurance chômage que des indépendants précaires, vous incorporez un déficit. Donc le problème, comme ça s'est passé pour les salariés auparavant, c'est donc comme dans toute assurance, si vous incorporez que les malades, vous n'en sortez pas. Et en plus, on sait qu'en matière d'assurance chômage, si vous créez un droit spécifique pour certaines catégories de gens, on a connu les intermittents du spectacle, on a connu les intérimaires, si vous dites les travailleurs des plateformes ont un droit dérogatoire, vous créez un appel d'air sur ce type de statut dont vous déplorez par ailleurs qu'il pose des problèmes. Donc du coup, faut faire attention.
Jean-Guilhem Daré, finalement, est-ce que, voilà, quand on parle des indépendants, le cas le plus problématique, le plus... polémique peut-être, finalement, c'est pas celui des Uber, des Deliveroo, justement, qui sont dépendants d'un seul donneur d'ordre ou de deux donneurs d'ordre, finalement, et qui sont extrêmement vulnérables.
Qui sont extrêmement vulnérables, oui, c'est vrai. N'empêche qu'il y a quand même une concurrence de la part de ces personnes auprès de professionnels qui exercent une activité depuis un certain temps. Et il est clair qu'on ne va pas pouvoir... Alors, vous le disiez tout à l'heure, on s'est un petit peu accroché sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un indépendant ? Est-ce que c'est un statut ? Est-ce que on ne sait pas exactement. Donc, à partir du moment où on circonscrit seulement à ce type d'indépendant-là, il y aura une difficulté auprès des...
Alors, par exemple, est-ce qu'il faudrait mettre à contribution les plateformes, justement, les faire payer, ces plateformes ?
Ce serait une solution, effectivement. On arriverait dans un système de... ce ne sont pas tout à fait des indépendants, ce ne sont pas tout à fait des salariés, mais au travers des plateformes qui seraient amenées à contribuer, autant d'ailleurs pour une couverture que pour de la formation, que pour amener ces personnes vers d'autres emplois, par exemple, ce serait une solution. Ça va être un petit peu difficile, quand même.
Ouais, et puis la question aussi, Jean-Charles Simon, c'est combien de donneurs d'ordre, finalement, pour ces travailleurs
Le sujet, on le voit bien avec nos amis indépendants, puisque on veut presque leur mettre quelque chose que vous disiez que vous ne demandiez pas. Donc, c'est clair. On vient leur proposer quelque chose. Et évidemment, ils commencent à regarder le coût. Ils voient ce que les employeurs de salariés payent. 4,05% aujourd'hui pour la partie cotisation employeur qui subsiste proprement dit, mais la partie cotisation salariée, elle est bien payée toujours, même si elle prend plus la forme d'une cotisation spécifique. Donc ça coûte très cher. Cette cotisation, elle coûte très cher. Elle pèse lourd sur le coût du travail. On fait souvent comme si ça n'avait aucune importance, comme si en soi, voilà, on avait un système d'assurance et puis ça avait aucun effet. Mais ça a un impact sur le coût du travail. Et les impacts sur le coût du travail, ils ont un impact aussi sur le niveau de l'emploi, sur la demande d'emploi. Donc c'est aussi réflexif, si vous voulez. On a quelque chose qui est loin d'être léger. Et comme justement, elle n'est pas légère du tout, cette cotisation, surtout dans le système français où non seulement le taux est vraiment élevé, et en plus, il est sur une tranche de salaire extrêmement large. Là, on est les champions, toute catégorie, sur la tranche de salaire couverte, avec croisé au taux. Donc, on a quelque chose qui est vraiment lourd, encore une fois, sur l'emploi. Donc, il me semble qu'il faut se poser la question de est-ce qu'il faut nécessairement avoir à chaque fois un système obligatoire d'assurance couvrant à ce point le risque de manière aussi large. Aujourd'hui,
votre réponse est non.
Ben, voilà. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup. Il y a un système, je ne vais pas faire de publicité. Il y a un système qui s'appelle la GSC, par exemple, pour les chefs d'entreprise, des indépendants qui veulent avoir un système d'assurance facultative. Un système facultatif. Ça convient à pas mal de profils. Et puis, il y a beaucoup de gens qui prennent rien parce qu'ils préfèrent l'auto-assurance. C'est la situation donc d'une partie des indépendants. Je pense que globalement, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est de penser que nécessairement tout doit être assurantiel.
Codifié, bien sûr.
Première chose, parce que c'est loin d'être pour moi quelque chose qui devrait être une évidence. Est-ce que tout doit être assurantiel ou est-ce qu'au contraire, on doit arriver à une autre logique qui serait une logique davantage universelle, forfaitaire et de solidarité. Et la deuxième chose, c'est si jamais il y a une part assurantielle, ce qui est tout à fait envisageable évidemment, est-ce qu'elle doit être aussi importante, est-ce qu'elle doit couvrir autant de risques? Parce que, encore une fois, le fait de mettre des cotisations obligatoires très lourdes, c'est pas du tout sans conséquence sur le marché du travail.
Bon, on le voit que c'est pas très simple. Oui, pardon, François Omri.
Moi, je trouve très intéressant l'intervention de Jean-Charles Simon. Je pense qu'on peut l'illustrer d'un chiffre, de deux en vérité. 42% des ressources de l'assurance chômage sont assises sur les salaires des membres de l'encadrement. Techniciens, agents de maîtrise et cadres. 42% des ressources et 15% des allocations. C'est-à-dire, si vous faites la différence, 27%. Donc dans le fonctionnement de l'assurance chômage pour la partie qui est uniquement entre l'équilibre entre les ressources et les allocations est lié à la solidarité intercatégorielle. Et nous, à la CFE-CGC, on est très attachés à ça. On pense que justement, la cohérence du système, ce qui fait sa force, ce qui fait sa légitimité, justement, c'est qu'il convoque dans son fonctionnement cette solidarité intercatégorielle. Et on est très opposés, sur le fond, à faire porter sur les individus, sur des petites micro-sociétés, le caractère assurantiel. Il faut que ce soit la collectivité qui assume le caractère assurantiel. C'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait sa grandeur. C'est le modèle social.
Philippe Vivien, Alexio.
Non, je crois c'est important et on le voit bien, c'est-à-dire il est à la fois intercatégoriel et on le retrouve aussi intergénérationnel, puisque AGF Carco c'est l'inverse. Donc on voit bien qu'on a, je dirais, de ce point de vue, une imbrication en France qui est très forte. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que tout le modèle qu'on doit décrire doit contribuer au retour à l'emploi le plus rapidement possible. Allez. Je crois que c'est vraiment ça qui doit être le fil conducteur de la négociation et de la réforme.
Et
ce n'est pas seulement le contrôle, c'est aussi l'accompagnement.
On parlera tout à l'heure du contrôle et du contrôle des chômeurs notamment, et puis de la gestion aussi, la gouvernance unique. Ouais, pardon, Jean-Charles Simon, candidat à la présidence du MEDEF.
Juste dire un point. Le système social français, par l'ampleur des dépenses publiques sociales, c'est-à-dire les dépenses sociales qui ont un caractère obligatoire, que l'on ne choisit pas, c'est la solidarité, c'est le pays qui est le champion de ces dépenses publiques sociales. Est-ce que ça a de bons résultats?
Non.
De mon point de vue, non. Mais je pense que ça fait partie de l'ensemble des questions qui devraient se poser, et on peut avoir de la solidarité sans pour autant être... à couvrir ce qui correspondrait à la fois à une base et à une complémentaire. On peut très bien imaginer avoir de la solidarité pour couvrir une couverture de base. Ça peut valoir ce que je dis pour la retraite comme pour le chômage. Se dire qu'en revanche, il y a une part qui est davantage laissée à l'auto-assurance ou au choix d'assurance facultative complémentaire.
Cette universalité croissante dont nous parlait tout à l'heure Philippe Vivien, et c'est vrai, c'est ce que souhaitait le président de la République, le candidat Macron avant d'être élu président de la République, concerne aussi les démissionnaires, justement. Bon, les démissionnaires, hein, Emmanuel Macron, quand même, cet automne, il a resserré le périmètre pour les démissionnaires. En dehors des cas déjà prévus, 70 000 cas par an, notamment ceux qui déménagent, justement. Il faudra avoir un projet professionnel bien défini, disait-il, pour pouvoir recevoir les allocations chômage. Est-ce qu'il s'agit d'un recul? Non, disait Muriel Pénicaud. On va avoir le culot d'ouvrir des droits à l'assurance chômage, même aux démissionnaires. N'empêche que le document qui a été donné aux négociateurs là, qui ont commencé, qui ont à se retrouver ce matin, évoque pour les démissionnaires une indemnisation chômage plus courte, une allocation plafonnée, une fréquence quinquennale. Bon, ça veut dire quoi? On ira jusqu'au bout? On est en train de réduire la voilure? Tout ça est beaucoup moins ambitieux que prévu ou pas, Bruno Coquet?
Je ne sais pas, on verra où on va arriver. En tout cas, pour les démissionnaires, encore une fois, c'est un sujet simple. Un démissionnaire, c'est effectivement, comme l'a annoncé le président de la République, quelqu'un qui a un projet, soit un projet de formation, de création d'entreprise. Il y a aujourd'hui des motifs légitimes de démission pour lesquels on peut être indemnisé. Et puis des gens aussi qui démissionnent parce qu'ils ont un projet et ce projet ne se fait pas. Ils attendent 4 mois, ils déposent leur dossier et ils peuvent être indemnisés s'ils ont des droits. Bon. Donc il suffit d'étendre la législation actuelle et c'est pas parce que ils ont démissionné que d'un seul coup on va pas pouvoir les contrôler ces gens, parce qu'on va pouvoir contrôler que s'ils ont un projet de création d'entreprise, ils cherchent des financeurs, ils cherchent des associés, ils cherchent des clients. S'ils ont un projet de formation, ils cherchent quelqu'un qui fait cette formation. Ils sont assidus, ils ont éventuellement un diplôme, etc. Dans l'assurance automobile, si votre voiture brûle, vous êtes remboursé. Les gens qui veulent changer de voiture brûlent pas leur voiture. Donc du coup, on voit bien que vous avez des techniques d'assurance pour contrôler cette aléa morale. La première technique, ce serait de dire, dès lors que vous annoncez votre démission à votre employeur, c'est-à-dire à peu près 3 mois avant, vous le dites aussi à Pôle emploi. Ce qui fait que 3 mois plus tard, vous arrivez à Pôle emploi, bah déjà, qu'est-ce que vous avez fait?
Le dossier
vous
constitué.
En êtes. Voilà, et puis sûr. Après, vous avez 4 mois de délai de carence, qu'on appellerait une franchise dans d'autres assurances dommages. Ces 4 mois de délai de carence, pendant ce temps-là, vous avez des démarches, comme un chômeur normal recherche un emploi, un chômeur de ce type-là construit son projet, et donc vous avez une période de 7 mois où l'assureur, l'UNEDIC, peut s'assurer que la personne est dans une démarche, effectivement, où il veut créer son emploi, se reconvertir, etc. Et ça, on voit bien en prenant des dispositifs un peu analogues qu'on connaît, que vous n'avez pas un appel d'air gigantesque, que vous pouvez très bien le contrôler, et que, plus encore, si ça marche, c'est-à-dire vous créez des emplois et celui que vous avez quitté contre la volonté de votre employeur, bah du coup il est libéré pour un autre chômeur, et bien du coup à la sortie vous avez plus d'emplois et donc plus de cotisations et moins de prestations pour l'UNEDIC. Donc c'est rentable.
Donc pas d'effet d'aubaine, il y a pas de risque d'effet d'aubaine, Philippe Vivien, justement tout ça permettra de quoi susciter, faciliter les transitions finalement sans montrer, parce que certains disaient oui bon ça va donner l'idée de donner le sentiment à certains de faciliter l'oisiveté. Non, il y a vraiment
qu'il y ait des effets d'aubaine, il y a toujours le risque d'effets d'aubaine sur des systèmes comme cela. Par contre, on l'a bien vu quand on dit une fois tous les 5 ans avec des niveaux qui ne sont pas aussi élevés que d'autres.
Enfin, l'effet avec des garde-fous, ouais.
Vous savez, on l'a retrouvé sous un autre aspect quand on a mis en place la rupture conventionnelle individuelle. S'est passé, je dirais, on a vu des nombres de démissions qui étaient réduits. Les salariés venaient voir leur employeur en disant bon, j'ai envie de démissionner, mais je ne sais pas bien. Est-ce qu'on peut signer une rupture conventionnelle? Ça va pas vous coûter très cher. Et moi, j'aurai un certain nombre de droits. Donc, si ça peut apurer, je dirais, la situation et permettre véritablement de rentrer dans un projet, c'est pas mal.
Bon, allez, on continue dans un instant autour des négociations de l'assurance chômage qui nous concernent tous, qui vous concernent, bien entendu. On parlera aussi du contrôle des chômeurs. On parlera de la lutte contre la précarité, vous savez, ces CDD courts. Là, il y a peut-être un motif, justement, bien de divergence entre le patronat et les syndicats, finalement. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors l'assurance chômage au cœur des décodeurs de l'écho à l'occasion de cette première journée de négociation entre partenaires sociaux, ça va durer un mois, ça servira un petit peu de base, intégré dans le projet de loi que va présenter le gouvernement. Projet très global, vous savez, le premier gros chantier, donc fin 2017, la réforme du droit du travail, et puis ensuite, eh bien, assurance chômage, formation professionnelle, apprentissage également, avec un sacré programme très très ambitieux. Tiens, le sera-t-il? Ira-t-il jusqu'au bout cet ambitieux programme? Parce que c'est vrai, tiens, Jean-Charles Simon, vous êtes avec nous, candidat à la présidence du MEDEF, chef d'entreprise à la tête de Station. Au départ, l'idée, selon le candidat Macron, c'était d'élargir aux indépendants, aux démissionnaires donc de leur emploi. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Est-ce qu'on va pas commencer à réduire la voilure, à votre avis, pour les démissionnaires, parce qu'on en parle?
Comme ça a été dit pour les démissionnaires, je crois qu'objectivement, c'est pas vraiment un sujet financier. C'est plus vraiment un sujet de sur les finances de l'UNEDIC et d'impact sur les finances de l'UNEDIC. Et c'est même plus vraiment un sujet de principe pour moi, parce que comme c'était rappelé, entre tous les cas qui sont déjà prévus d'éligibilité à l'indemnisation de l'assurance chômage en cas de démission,
Et puis, bien sûr, massivement depuis 2008, la rupture conventionnelle que vous évoquez, qui évidemment change complètement les choses. Le nombre de cas où les personnes se retrouvent à démissionner sans que ce soit parce qu'ils vont prendre un autre emploi, on arrive sur des effectifs de plus en plus minces. Et heureusement, ou sans que ce soit en fait un licenciement déguisé ou une pression. Et dans ces cas-là, c'est des cas où ils sont éligibles à l'indemnisation. Donc, en fait, on se retrouve avec déjà, de toute façon, un peu une tête d'épingle sur le sujet. Que du coup, il n'y ait plus vraiment de question de la nature de la rupture pour aller vers l'indemnisation, et que ce soit en fait le fait de se retrouver en situation de non-emploi qui appelle l'indemnisation, ça me semble assez logique. Ça me semble un peu le bout de la logique dans laquelle on a commencé à rentrer depuis un certain temps. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, ayant été assureur, je vois plus trop en quoi c'est complètement exactement une assurance. C'est à partir du moment où il n'y a plus l'aléa nécessairement de l'événement et que je peux décider moi-même d'aller dans la situation de me priver d'emploi, enfin de mettre un terme à mon emploi sans en avoir un autre et de pouvoir bénéficier de l'indemnisation prévue. De la même façon que les autres situations de rupture, j'ai quand même transformé un peu la nature du régime. Et du coup, je pense que ça pose là aussi, comme je le disais tout à l'heure, la question de la logique. Est-ce que la logique n'est pas davantage de regarder la situation, c'est-à-dire je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'activité, de revenus, pardon, d'activité, et j'en cherche un, ou j'essaie d'en avoir un. Donc ça, c'est la nature de la chose. Ça me semble finalement devenir le fait que je regarde, et non plus... Quelle était ma situation précédente ?
Bien sûr. D'accord ou pas ? François Omri, il est à la tête de la CGC.
Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, le problème a été réglé. Il y avait un grand malentendu. Bruno Coquet, tout à l'heure, a très clairement décrit la situation. C'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Je pense qu'il y a eu un peu une idée au départ que le salarié démissionnaire serait indemnisé sous toutes conditions, ce qui revient vers le point que vous évoquez. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est très clair. D'ailleurs, il y a plus d'un million de démissions par an. Ce sont des gens qui vont d'un emploi à l'autre et qui démissionnent pour le faire, et 70 000 personnes qui sont dans les cas d'indemnisation légitime. Il est probable que le dispositif proposé va élargir un peu le champ, mais il y aura toujours des conditions à ce que le salarié démissionnaire soit indemnisé, ce qui est plutôt une bonne chose. Et sur ce sens-là, on peut considérer que, d'une certaine manière, le dialogue aura été utile à ce que chacun se comprenne un peu mieux.
Alors, autre question. Alors, est-ce que c'est toujours une question, justement, on va en parler lors de ces négociations, c'était une promesse d'Emmanuel Macron qui voulait multiplier par 5 les équipes de contrôle, donc des chômeurs, du fait notamment de l'ouverture de nouveaux droits. Muriel Pénicaud, elle veut renforcer les sanctions à l'encontre des chômeurs fraudeurs. Est-ce que c'est toujours un vrai sujet, vous savez, un sujet sur lequel la France aime se déchirer, cette polémique, vous savez, juste avant Noël, donc, de ce rapport, ce brouillon émanant du ministère du Travail, finalement, qui n'avait pas été validé, vérifié, ça fait partie toujours des sujets tabous? On en parle toujours de ça, tiens, Philippe Vivien à la tête d'Alexio.
À partir du moment où vous bénéficiez de droits, ouais, vous devez avoir des obligations. Oui. En contrepartie, il ne me paraît donc pas tout à fait illusoire qu'on puisse contrôler l'exécution de ces obligations.
Vous avez raison, mais est-ce qu'on n'en rajoute pas trop ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fantasme sur
après,
les chômeurs assistés, les chômeurs fraudeurs ?
C'est évident qu'il ne faut pas partir dans des fantasmes.
Ça représente combien de personnes
Regardez ce qui avait été fait, je dirais, cette étude qui a montré que sur 260 000 contrôles, ouais. 270 000 contrôles, ouais. 14% de radiation. Ouais. Par contre, il y a un chiffre qui était...
La moitié qui ne sont pas des gens indemnisés. Ouais.
Et il y a un chiffre qui était quand même très intéressant. C'est que malgré tout, dans 60% des cas, le nombre de rendez-vous ensuite avec le conseiller, pas le conseiller contrôleur, le conseiller accompagnateur, bien sûr. Avait augmenté dans les 2 mois suivants. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. L'enjeu n'est pas de contrôler pour sanctionner. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'enjeu, si contrôlé, permet de renforcer, de remobiliser des salariés qui sont, ou des chômeurs qui sont un peu paumés dans l'ensemble du système pour les remettre sur cette voie, c'est parfait. Si ça permet de les ramener plus vite en formation, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, en mieux, à votre avis, François Omri de la CGC ?
Moi, je voudrais rajouter encore quelques chiffres. Hein. Effectivement, 14% de gens qui ont été repérés comme ne faisant pas les recherches d'emploi.
Sur 260 000.
Voilà, dont 60% n'étaient pas indemnisés. En fait, dans cette étude, on considère qu'il y a entre 0,4 et 1% de personnes qui, effectivement, sont, entre guillemets, des fraudeurs.
Des vrais fraudeurs, ouais. C'est 1% des chômeurs.
Et je dois vous dire, pour la CFE-CGC, que si des contrôles permettent de mettre la main sur les fraudeurs manifestes, nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Le problème, c'est pas celui-là. Je vais dans le même sens. Si les contrôles vont dans le sens de remotiver les gens qui sont en recherche d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien d'ailleurs, cette étude nous le montre. Beaucoup de gens se font radier parce qu'ils sont un peu perdus, parce qu'ils sont à 200, 300, 400 jours de recherche d'emploi. Ils ratent un rendez-vous ou ils se mélangent. Enfin bref, ils ont besoin d'être encadrés pour pouvoir se remotiver. Est-ce que vous savez que sur une période moyenne de 400 jours, qu'est la période moyenne de recherche d'emploi, si vous n'arriviez à progresser ne serait-ce que de 20 jours, hein, dans la durée moyenne, vous faites gagner 2 milliards au régime. C'est absolument fondamental. Et effectivement, dans ce sens-là, moi, je suis prêt à vous dire que si on mettait à disposition du personnel pour encadrer un peu mieux les gens qui sont en recherche d'emploi et travailler avec eux sur les conditions...
Pôle emploi ne dispose pas d'assez de moyens, votre
patron. Si on donne à Pôle emploi des moyens pour encadrer mieux les chômeurs, pour les conseiller, pour les orienter, nous, à la CFE-CGC, on n'y voit pas d'inconvénient.
Bruno Coquet, auteur d'un avenir pour l'emploi, sortir de l'économie administrative.
Sur le contrôle, il n'y a pas de tabou. D'abord, si je parlais tout à l'heure des caisses syndicales au 19e siècle, quand vous regardiez les conditions de perception de la location, elles étaient autrement plus dures qu'aujourd'hui et plus contrôlées. Pourquoi ? Parce que c'était des gens à l'intérieur d'une profession et que vous ne dites pas à votre collègue qu'il n'y a pas de travail s'il y en a quand vous êtes dans une profession d'électricien, de savetier ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en France, l'assurance chômage, il y a très peu d'aléas moraux. Les études de comparaison internationale montrent qu'il est à peu près deux fois moindre qu'ailleurs. L'aléa moral, c'est l'indolence des chômeurs à reprendre un emploi. Ils trouvent ça confortable. Donc il y en a beaucoup moins qu'ailleurs, bien qu'apparemment elles soient plus généreuses, ce qui est contestable. Mais donc peu d'aléas moraux. Et d'ailleurs, on signe 40 millions de contrats de travail par an en France, dont 35 millions sont des contrats de moins d'un mois.
Ah,
qui accepte ces contrats de travail chaque mois? Il y en a 3 millions par mois qui sont signés des contrats comme ça. C'est des chômeurs. Donc les chômeurs reprennent des emplois. Le problème est d'arriver à les faire reprendre des emplois plus durablement, enfin de les accompagner comme ça a été dit et redit à l'instant. Donc il n'y a pas de problème à contrôler. Les chômeurs en plus sont assez prompts à reprendre des emplois et il faut les aider à le faire.
Vous, Jean-Charles Simon, qui briguez la présence du MEDEF, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Moi, je serais dissonant par rapport aux gens de l'organisation à laquelle je candidate sur ce sujet-là, parce que j'ai le sentiment que on pointe des personnes qui en fait sont dans une situation de grande difficulté en général, qui effectivement, comme vous le disiez, parfois vous manquez un rendez-vous, vous manquez une actualisation de leur dossier, alors que la vraie fraude par rapport aux règles de l'assurance chômage, elle est assez marginale. Et en plus, à mon avis, on pourra ajouter des moyens. Ceux qui trouvent, qui réussissent à passer entre les mailles du filet, ils continueront à réussir à le faire.
Toujours, ouais.
Donc en fait, on va harceler des personnes qui sont dans des situations plutôt précaires et difficiles, voire très difficiles, et en revanche, on va à peu près rien réussir. Mmh. Je préférerais qu'on se pose globalement la question du coût de Pôle emploi. Moi, je veux bien qu'on dise qu'on a un des moyens, mais je préférerais qu'il y ait à la limite quelque chose sur le contrôle, où il y a un peu plus de confiance dans le fait que les gens veulent retrouver a priori l'emploi qu'ils recherchaient. Après, on pourrait avoir un autre changement de logique que j'évoquais, qui est de dire là, on les contraint à avoir des emplois qu'ils ne recherchaient pas. J'évoquais le cas allemand et la réforme il y a 13 ans, c'est exactement ce qui a été fait. On a réduit massivement la durée d'indemnisation et on a fait en sorte que les gens acceptent des emplois qu'ils n'auraient jamais acceptés s'il y avait eu une matière de l'aide sociale comme elle préexistait. Mais en revanche, dans les règles telles qu'elles existent, je pense que le contrôle n'est pas un vrai sujet, ni financier, ni si vous voulez, même de principe. C'est-à-dire que, encore une fois, la plupart des gens, ils veulent retrouver un travail.
Il y a peut-être un sujet justement là qui divisait le patronat et les syndicats au milieu de ce beau consensus dont vous parliez tout à l'heure, François Amril. Oui, c'est la question des contrats courts. Je cite les chiffres du gouvernement. Entre 2000 et 2014, les embauches de CDD de moins d'un mois ont augmenté de 140%. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il faut taxer les CDD courts? Apparemment, le gouvernement est revenu sur l'idée de bonus-malus qui énervait le patronat. C'est-à-dire, voilà, on taxe les boîtes qui embauchent un petit peu trop, qui utilisent un peu trop de CDD courts. Jean-Claude Mailly, pour FO, il veut pénaliser les entreprises qui abusent des contrats courts. Laurent Berger, c'est la CFDT. Que dit-il? Les contrats courts de moins d'un mois explosent. Il faut que les entreprises assument leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait? Un mot chacun rapidement, parce qu'on va bientôt se quitter. François Amril, de la CGC.
Très clairement,
là vous n'êtes pas d'accord avec le MEDEF.
Non, mais les contrats courts sont un problème. Simplement, moi, ce que je veux souligner ici, sans tomber dans le d'accord pas d'accord, il y a des contrats courts qui sont entre guillemets utiles à l'économie. Il y a certains métiers pour lesquels le recours aux contrats courts est nécessaire pour l'équilibre même de l'entreprise. Il y a des contrats courts qui sont nocifs à l'économie et à la concurrence. Et c'est le travail de chacun de trouver à techniquement à faire la part des choses entre ces deux types de contrats.
Philippe Vivien, Alexio.
Peu de choses à dire au-delà de ça. C'est, on sait qu'on a des situations de secteurs d'activité très différentes. Ça vient d'être dit par François Omri. Et je crois qu'il faut trouver des solutions adaptées à chacun. Et on ne trouvera pas une solution unique.
Jean-Charles, Simon.
Pourquoi ça a explosé? Ça a explosé parce que les gens, ils trouvent un intérêt côté employeur et côté et ou salarié. Donc il y a des avantages là. Donc si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de subventions indirectes entre secteurs économiques qui soient malsaines et de choses qui, par le biais de l'assurance chômage, conduisent à des flux croisés entre secteurs économiques non voulus. Et en même temps, il faut se poser des questions. Pourquoi on fait ça? Ça repose des questions sur le CDI et ça pose, si vous voulez, globalement, des questions sur l'évolution de l'emploi. Et donc, à nouveau, est-ce qu'on passe vers quelque chose de plus forfaitaire et plus universel?
Jean-Guilhem Daret, le syndicat des indépendants.
Ce qui est certain, c'est que la surtaxation éventuelle des contrats courts va impacter les entreprises au niveau des charges sociales. Ça n'aura strictement aucun effet, puisqu'effectivement la courbe monte. Hein, entre 2013 et 2017, il y avait déjà une surtaxation qui a été mise en place. Ça n'a strictement rien changé. Donc c'est pas la solution pour les CDI. La solution, elle passe par la formation et par des systèmes qui permettent aux employeurs d'avoir d'avoir un système de pool en fait pour avoir la possibilité d'avoir un même salarié sur plusieurs employeurs.
Bruno Coquet.
Un assureur, il doit taxer les comportements qui lui coûtent cher. Ça, c'est la base. Par ailleurs, les contrats courts coûtent cher, bien au-delà de l'assurance chômage. Donc aujourd'hui, un gouvernement est motivé à les taxer. Ce serait un mauvais plan pour l'assurance chômage que le gouvernement impose sa taxe selon ses propres critères. Ça crée de la pauvreté, etc. Et que l'assurance chômage subisse cette taxe. Elle a plutôt intérêt à traiter, sans augmenter le coût du travail au total, les contrats courts en les surtaxant un petit peu.
Pour conclure, est-ce qu'on peut indemniser tout le monde? Puis aussi, qui doit gérer l'assurance chômage? Qui doit payer? La CSG, elle va financer aussi le régime d'assurance chômage. Est-ce que l'État doit s'emparer du dossier? Allez, un mot chacun et on se dit au revoir promis.
Moi, je serai raccord avec toutes les organisations patronales et de salariés qui ont signé ces 8 pages communes. Il faut que les partenaires sociaux continuent à gérer
reprenne
le truc. Chômage.
Philippe Vivien, c'est acceptable toujours?
On est dans une situation hybride. Ouais. Il va falloir qu'on arrive à trouver les solutions et il va falloir qu'on se réforme suffisamment.
Vous disiez le système actuel de l'assurance chômage, il a fait son temps. Et peut-être les gestionnaires de l'assurance chômage, peut-être,
la difficulté du paritarisme de négociation et de gestion. On n'a pas trouvé la solution.
Jean-Charles Simon.
J'observe de manière pour moi absolument évidente un échec financier, un échec économique et un problème de gouvernance. Ouais. Et donc il faut une gouvernance claire. Je pense qu'aujourd'hui le sujet c'est l'État qui doit gérer la compensation de l'absence de revenus d'activité de manière universelle et donc par l'impôt. Plus par la cotisation sur le travail.
Allez, fini avec Bruno Coquel, mot de la fin.
Moi, je crois que c'est aux partenaires sociaux, ils le font bien. Simplement, c'est pas un problème de gouvernance, c'est un problème de contrôle de gestion. Il n'y a pas de contrôle de gestion. 40 milliards sans comptabilité analytique, c'est pas possible.
Merci à tous. Oui, dossier évidemment sur lequel, on va continuer de plancher sur BFM Business. Merci à François Omri, le président de la CFE-CGC, Philippe Vivien, qui dirige son cabinet de conseil en relations sociales, Alixio, Jean-Charles Simon à la tête de Station, candidat à la présidence du MEDEF, Bruno Coquet, associé auprès de l'Institut de l'entreprise, auteur de Un avenir pour l'emploi, et puis Jean-Guilhem Daret qui est venu nous voir depuis Lyon, c'est le délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, les décodeurs de l'écho qui reviennent très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.